C'est le moment à l'émission cet après-midi de la chronique d'Info Justice Outaouais. Comme d'habitude, on retrouve Maître Jade Barrière, avocate chez Info Justice Outaouais. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Aujourd'hui, on parle d'un thème qu'on entend régulièrement dans les médias, les enquêtes sur remise en liberté, parce que quand une personne fait face à des accusations en droit criminel, le principe, c'est normalement qu'elle a le droit d'attendre la tenue de son procès en liberté. Il arrive parfois là, qu'il y a un débat qui a lieu pour savoir si la personne doit rester détenue en attendant son procès ou on peut la libérer avec des conditions. Si on repart de la base, là, c'est quoi une enquête sur remise en liberté?
Bien, en fait, il s'agit d'une audition devant un juge lors de laquelle on veut déterminer, en fonction de certains critères, puis selon des garanties qui sont proposées par l'accusé, si une remise en liberté doit être ordonnée. Donc, il ne s'agit pas d'un procès parce que l'objectif n'est pas de déterminer si l'accusé est coupable ou non d'infraction dont il est accusé.
À quel moment est-ce que l'enquête sur remise en liberté est nécessaire?
Dans la majorité des cas, les accusés qui comparaissent pour une infraction criminelle le font en liberté. Donc, il arrive dans certains cas que les policiers, au moment de l'arrestation de l'accusé, vont le garder détenu jusqu'à sa comparution. Donc, c'est dans ces circonstances-là que l'accusé doit comparaître devant un juge dans les 24 heures de son arrestation. Et dans ces cas-là, il va arriver que l'accusé soit remis en liberté avec le consentement de la poursuite au moment de sa comparution. Par contre, il arrive que la poursuite va s'opposer à la remise en liberté de l'accusé et demander à ce que ce dernier reste derrière les barreaux jusqu'à la fin des procédures, que ce soit par règlement du dossier ou encore à l'issue du procès selon le code. C'est à ce moment-là qu'une enquête sur remise en liberté peut être demandée afin qu'une audition soit tenue rapidement devant un juge pour que la cour décide si la liberté peut être accordée.
Puis en vertu de quoi la poursuite peut s'opposer à la remise en liberté d'un accusé?
En fait, il existe trois motifs sur lesquels le procureur, la couronne, peut se baser pour justifier qu'un prévenu soit gardé détenu de façon préventive. Donc, le procureur, la couronne, peut se baser sur un seul de ces motifs ou sur plusieurs d'entre eux pour justifier que la détention soit nécessaire. Donc, d'abord, l'avocat de la poursuite peut invoquer que la détention, elle est nécessaire pour assurer la présence de l'accusé au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi. Donc, ça peut être le cas d'un individu qui a démontré par le passé ne pas répondre à ses accusations en refusant de se présenter au tribunal lorsque convoqué ou encore en esquivant un mandat d'arrestation. Puis, ça peut aussi être le cas d'une personne qui risque de fuir le pays si elle est remise en liberté. Mm-hmm. Ensuite, le procureur de la couronne peut aussi invoquer que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public. Donc, pour ces critères, la poursuite invoque, alors qu'il existe une possibilité marquée que le prévenu ou l'accusé, en fait, commette une nouvelle infraction s'il est remis en liberté. Donc, ce motif est souvent évoqué lorsque l'accusé est ramené devant les tribunaux pour avoir brisé ses conditions de remise en liberté, par exemple en communiquant avec le plaignant ou en étant en sa présence alors que cela lui était interdit. Puis, ça pourrait aussi être le cas d'une personne qui commet à répétition des infractions après avoir été initialement remise en liberté, que ce soit en matière de vol, de conduite avec les facultés affaiblies, de voies de fait, etc. Puis, finalement, la couronne peut appuyer son objection à une remise en liberté par le fait que la détention, elle est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu notamment du fait que l'accusation paraisse fondée, que l'infraction soit grave ou encore que l'accusé risque une longue période d'emprisonnement s'il était condamné. Donc, ce motif-là, il est surtout applicable aux infractions qui sont très graves et dont la preuve, elle est accablante.
Puis, qu'est-ce qu'un accusé doit faire là, pour tenter d'être remis en liberté?
Bien, en fait, comme je le mentionnais plus tôt, l'enquête sur remise en liberté, c'est pas un procès. Donc, l'objectif de la défense lors d'une enquête sur remise en liberté, c'est pas de démontrer l'innocence de l'accusé, ni un moyen de défense, mais plutôt de présenter au tribunal un plan de sortie qui est assorti de garanties. Donc, ainsi, le rôle de la défense, c'est alors de présenter des conditions de remise en liberté que l'accusé va s'engager à respecter et qui viennent répondre aux enjeux qui sont soulevés par la poursuite. Donc, par exemple, si la poursuite invoque que l'accusé devrait être gardé détenu parce qu'il risque de quitter le pays pour fuir ses accusations, la défense pourrait offrir comme garantie le fait que l'accusé dépose son passeport au greffe, en fait, jusqu'à la fin des procédures, ou encore s'engager à ne pas quitter le district judiciaire de la Belle, ou encore se plier à un couvre-feu qui le forcerait à être à sa résidence entre 6h et 22h.
Puis pourquoi la défense profite normalement pas de l'enquête sur remise en liberté là, pour tenter de démontrer l'innocence de l'accusé?
Mais il faut comprendre que c'est pas au stade de l'enquête sur remise en liberté qu'il est recommandé de tenter de réfuter la preuve au dossier et que même si un moyen de défense solide est invoqué, ça permet pas d'acquitter l'accusé des infractions à ce stade-ci. Donc, lors de l'enquête remise en liberté, le procureur de la Couronne résume normalement sa preuve au juge afin de démontrer la gravité des infractions, leur fondement, la nature du délit reproché, la relation entre le plaignant et l'accusé, etc. Ça peut donner envie à l'accusé de vouloir se défendre, surtout lorsqu'il est allégué que les accusations sont fausses. Mais les avocats de la défense ont des bonnes raisons de recommander à leurs clients de ne pas parler des faits à la base des accusations. Donc, en effet, si l'accusé commence à témoigner sur les accusations, en fait, ça va donner la permission à l'avocat de la poursuite de le contre-interroger sur ces faits-là. Puis, cette situation peut alors mener à des aveux ou encore à des déclarations judiciaires qui sont contradictoires, qui pourront plus tard être utilisées lors du procès, puis ainsi affecter la crédibilité du défendeur.
Puis, est-ce qu'il est préférable pour un accusé de présenter les garanties les plus sévères possibles pour se voir accorder sa remise en liberté?
En fait, il a été confirmé par la Cour suprême il y a quelques années que l'établissement des conditions de remise en liberté sous caution doit prendre en compte la présomption d'innocence et le droit de ne pas être privé injustement d'une mise en liberté avec des conditions raisonnables et réalistes. Donc, par conséquent, les conditions de remise en liberté ne doivent pas être plus sévères que ce qui est nécessaire pour répondre aux motifs justifiant une détention provisoire. Donc, autrement dit, les juges doivent faire preuve de raisonnabilité et de retenue lorsque vient le temps d'établir les conditions de remise en liberté d'un accusé. Également, les conditions de remise en liberté doivent être individualisées et il faut éviter d'imposer des conditions qui vont placer, par la nature, les populations plus vulnérables en situation d'échec. Donc, l'objectif, c'est par exemple d'éviter d'imposer à des individus en situation d'itinérance de payer des montants d'argent qui seraient importants à titre de garantie, ou encore d'interdire à une personne qui aurait des problèmes de toxicomanie de consommer de l'alcool ou d'en avoir en sa possession, puisque ce genre de conditions-là peuvent ne pas être réalistes et ainsi contribuer à la surcriminalisation des populations marginalisées. Donc, les conditions imposées doivent être claires, le moins intrusives possible et proportionnées aux risques pour l'accusé.
Il y a beaucoup de détails dans tout ça. Si nos auditeurs ont des questions sur ce sujet-là ou ont besoin d'un soutien juridique quelconque, comment est-ce qu'ils peuvent faire?
Donc, comme toujours, ils peuvent nous contacter chez InfoJustice pour toute question, pour avoir accès à du soutien juridique. Donc, nous, on est joignable par téléphone au 1-844-606-4600, qui est sans frais, ou encore au 819-600-4600. Puis enfin, je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe les revenus.
Maître Jade Barrière, avocate chez InfoJustice Outaouais, un grand merci. On se reparle dans deux semaines.
Merci, à la prochaine.